Focus sur la LPO, série découverte de cet organisme œuvrant pour l'environnement avec le concours de la Ligue de protection et de la biodiversité du département de la Drôme. Deuxième épisode avec dans quelques instants Vivien Chartandreau, directeur de la LPO Drôme, et Julie Coutou, chargée d'études biodiversité. Interview à Gautron sur le site de la LPO Drôme à Saint-Marcel-les-Valences avec le directeur de l'association, Vivien Chartandreau. Vivien Chartandreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la Ligue de protection des oiseaux au niveau du département de la Drôme. On va commencer par un petit mot un peu institutionnel, à savoir que la LPO, tout le monde connaît, au niveau national, tout le monde connaît forcément aussi le médiatique à la Mougrain du Bourg. Mais on connaît peut-être moins les antennes départementales. On peut dire que c'est une antenne par département. Comment s'est constitué ce réseau?
Alors le réseau LPO, c'est un réseau qui a aujourd'hui plus de 100 ans, parce qu'on a fêté le centenaire de la LPO en France en 2012. Et ce réseau, il a essaimé depuis, on va dire, une grosse vingtaine d'années, 20-25 ans, à travers toute la France, à partir donc de l'association nationale, la LPO France, qui est à Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime. Aujourd'hui, la LPO, elle est présente dans à peu près 80 départements de métropole, à peu près partout en France. Tout ça, c'est à peu près 37 associations, qui peuvent être des associations départementales ou régionales, auxquels s'ajoutent des groupes et des antennes. Donc dans les dénominations, on va dire que la LPO Drôme est une association locale, LPO départementale. Voilà. Alors en Rhône-Alpes, le réseau LPO, c'est 8 associations, donc tous les départements de Rhône-Alpes. Maintenant, on va plutôt parler de Rhône-Alpes-Auvergne, donc avec nos collègues de l'Auvergne, qui eux sont constitués en une association régionale, qui couvre les départements d'Auvergne. Donc c'est un petit peu les différences d'organisation qui sont un petit peu historiques entre nos associations LPO, avec en Auvergne une association régionale, une seule association pour toute la région, et en Rhône-Alpes 8 associations, plus une fédération, on va dire, d'associations, qui est la LPO Coordination Rhône-Alpes, basée à Lyon et qui aide à notre réseau LPO en région Rhône-Alpes à monter des projets, mutualiser les moyens et coordonner une action globale qui maintenant voilà sera une action Rhône-Alpes et Auvergnate. L'organisation Rhône-Alpine dépend vraiment de la genèse du monde de la protection de la nature et des associations de protection de l'environnement en Rhône-Alpes. Et au moment où, surtout, ces associations sont devenues LPO. Et il y a un choix qui a été fait d'un côté, qui n'est pas le même que celui qui a été fait de l'autre. Nos collègues au sud de la région Rhône-Alpes, nos collègues de PACA, sont une seule association régionale, là aussi. D'accord. Au nord de Rhône-Alpes, on a la LPO Franche-Comté, donc qui est une association régionale. Donc voilà, on va dire que c'est assez hétérogène. Il y a pas mal d'associations départementales en France, et puis quelques associations régionales. On a en Rhône-Alpes des antennes d'une association historique qui s'appelait le CORA, Centre Ornithologique Rhône-Alpes, qui se sont créés comme ça un peu partout dans tous les départements et qui naturellement, en tant qu'association indépendante, sont devenus LPO. Yeah,
okay. Voilà. Ça peut renforcer naturellement la proposition.
Voilà, tout à fait. Mais bon, on va dire que quand on transpose les forces vives associatives LPO en Rhône-Alpes et qu'on les compare à l'échelle d'autres régions, on va dire qu'on est quand même une région, on est la plus grosse région LPO en France, avec 8 associations, 9 si on compte notre fédération, et tout ce beau monde, ça fait quand même 60 salariés, ça fait 5000 adhérents, on a à peu près entre 160 et 200 administrateurs bénévoles pour nos associations, donc c'est vraiment quand même un terreau, un vivier important quand même de bénévoles, de personnes engagées pour la protection de la nature. 60 salariés, ça représente des chiffres importants d'un point de vue social quand même. On est une association qui pèse. À l'échelle de la France, il n'y a pas d'équivalent. Voilà. Les collègues auvergnats, c'est une vingtaine de salariés. En PACA, c'est 25. Voilà. En Rhône-Alpes, on est 60.
Alors on dit Ligue de protection des oiseaux, LPO. en fait, ça ne se cantonne pas forcément qu'aux oiseaux. C'était un petit peu la trame initiale et puis ensuite, ça s'est élargi.
C'est ça, loin de là, on va dire. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait souvent la remarque, le haut de oiseaux, mais pourquoi vous venez nous parler de chauves-souris, de mammifères, de blaireaux, de loups des fois, de libellules, de papillons En Rhône-Alpes, en tout cas, et dans pas mal d'autres régions, les associations qui historiquement sont devenues LPO étaient des associations qui s'intéressaient à bien d'autres sujets que les oiseaux, pour lesquels peut-être le cœur d'action était l'oiseau, parce que l'oiseau a été, on va dire, de tout temps et dans le monde naturaliste, un des premiers vecteurs de connaissance. On les voit assez facilement, on les entend facilement, ils sont beaux, c'est vrai qu'ils sont assez emblématiques. En ce moment, on parle pas mal des cigognes avec la migration, c'est des oiseaux qui parlent aux gens, peut-être plus qu'un papillon, qu'une libellule, qu'une grenouille. Donc voilà, c'est vrai que c'est le cœur historique de notre réseau associatif, mais Androme déjà historiquement c'était bien plus que ça, et c'est vrai que depuis 3 ans, 4 ans maintenant, est venu s'apposer au logo LPO, au fameux macareux, la petite mention agir pour la biodiversité, qui passe un petit peu inaperçu, mais qui est là pour matérialiser justement le fait que tout notre réseau aujourd'hui s'engage bien au-delà des oiseaux. Donc Androme, effectivement, Androme, on s'intéresse à beaucoup de choses. On est peut-être moins présent sur les questions botaniques, même si au sein de notre réseau interne LPO, on a des botanistes, on a des gens qui s'intéressent beaucoup aux plantes et puis aussi aux habitats. Finalement, se poser la question de la sauvegarde de la faune sans se poser la question de la sauvegarde de ses habitats et plus globalement des écosystèmes, c'est se tromper et c'est rater une part du problème. Donc c'est vrai qu'on a aussi dans notre réseau des gens qui sont capables de penser forêt, de penser zone humide, mais le cœur historique de notre action, c'est quand même la faune vertébrée. Et là-dedans, ben voilà, je l'ai dit très rapidement, on va parler des oiseaux. En Drôme, on a vraiment un très fort axe chauve-souris. On a une équipe qui travaille sur les chauves-souris et qui, on peut le dire, est réputée en France pour son travail, avec des personnes qui travaillent depuis 15-20 ans sur les chauves-souris. On travaille sur les reptiles, les amphibiens, on travaille sur les libellules, les papillons, on travaille sur les mammifères, comme des mammifères aussi emblématiques que le castor, que les chamois, le bouquetin. Voilà, donc tout ça, c'est quand même bien plus que les oiseaux. Et comme je le disais, avec toujours cette réflexion de comment préserver les habitats de ces espèces.
Alors, on peut parler des grandes missions, des grands axes que compose la LPO.
Alors voilà, on a essayé de réfléchir depuis quelques années à ce qu'est notre association, et puis on en a un petit peu conclu que notre action elle se déclinait en quatre grands axes. Finalement, qu'on peut traduire en verbe fort pour notre réseau, c'est connaître la nature, partager cette connaissance, donc partager les savoirs, et puis avec ce travail de partage, on essaie de mobiliser. Voilà, c'est mobiliser les énergies. Et l'objectif ultime de l'association, qui est son objectif principal, la sauvegarde, donc sauvegarder. Voilà, ça fait connaître, partager, mobiliser, sauvegarder. C'est les quatre grands axes de travail de l'association. Et on va dire que l'axe connaître est l'axe qui mobilise le plus chez nous. C'est les actions de prospection, les actions d'inventaire, les actions de suivi. C'est probablement 75% de notre travail bénévole qui est concentré sur la prospection au quotidien, l'utilisation de notre base de données participative FauneDrome, donc faune-drome.org, je donne l'adresse internet, qui est une base de données en ligne à laquelle n'importe qui peut contribuer et y intégrer ses petites observations, même dans son jardin. Voilà, c'est une contribution à la connaissance naturaliste. Et aux sciences participatives, qui est un sujet important en France actuellement et au-delà. Et tout ça, c'est vraiment un travail quasi quotidien de nos bénévoles qui fait que voilà, aujourd'hui, on peut asseoir à la LPO Drôme un socle de connaissances qui nous permet de décliner le reste de nos axes. Parce que voilà, partager les savoirs sans ne rien connaître, c'est bien compliqué. Mmh. Et mobiliser des énergies pour la sauvegarde de la nature sans qu'on ait vraiment ce socle de connaissances, c'est pas possible.
Vous avez beaucoup d'adhérents à la LPO, il y a différentes manières de s'investir.
Oui, alors il y a à peu près 45 000 adhérents au niveau national à la LPO, ce qui en fait, comme association indépendante, la plus grosse association de protection de la nature en France. En Drôme, on est à peu près 480 en 2015, à la fin 2015. Et parmi ces 480 adhérents, on peut estimer qu'on a entre 50, 60 bénévoles qu'on considérera comme des adhérents actifs. Tout adhérent étant voilà une force importante pour notre association. On dit souvent qu'adhérer c'est vraiment apporter son soutien et donner du poids à nos associations. Ça nous permet d'échanger avec des partenaires tout en l'affichant voilà derrière nous le soutien fort de plusieurs centaines de personnes en Drôme, et ce qui fait de la LPO quand même en Drôme une association importante. Mais voilà, on a au sein de ce pool d'adhérents vraiment des personnes qui, je le disais tout à l'heure, vraiment qui sont des contributeurs au quotidien de la protection de la nature, depuis des personnes qui vont se promener, collecter des informations, suivre des espèces sur des sites, aller prospecter d'autres sites pour essayer d'acquérir des connaissances quand on en a besoin, tout ça en interaction avec l'équipe de salariés qui, elles, mènent des projets qui sont des projets qui doivent aider à décliner la politique de l'association. Et puis, on cherche beaucoup à mobiliser ces bénévoles de plus en plus, que ce soit au sein de nos adhérents, mais au-delà aussi pour participer dans des petites actions concrètes, des petits gestes parfois, chacun avec ses moyens, ses compétences. Donc c'est vraiment ouvert à tous, hein. Chacun peut venir avec ce qu'il sait faire à la LPO et participer vraiment concrètement à la protection de la nature en Drôme.
Pour faire vivre la LPO, c'est aussi une équipe de salariés à Gautron. Combien êtes-vous à travailler de manière, on peut dire, salariée?
Alors, c'est plus Gautron, déjà, parce que bon, voilà, on a notre siège social à Saint-Marcel-les-Valences. On est hébergé par l'Institut national de recherche agronomique, l'INRA, à Gautron. Et on a une antenne à Cré également. Donc, on a deux antennes avec une équipe de Cré qui, historiquement, travaille sur les chauves-souris, mais bon, qui est en train de développer un peu ses actions au-delà du domaine des chauves-souris et peut-être un peu plus sur la question de la gestion des espaces, puisque la LPO Drôme est co-gestionnaire avec l'Office national des forêts d'une réserve naturelle régionale, la réserve naturelle régionale de la Grotte des Sadoux. Donc un petit peu dans l'arrière-pays de Saillant, voilà, au sud de la vallée de la Drôme. Et par ailleurs, voilà une équipe qui est plus basée au siège social, qui travaille sur un autre portefeuille de projets. Tout ça, ça fait actuellement 10 salariés à la LPO Drôme, dont 8 CDI. Une équipe à peu près d'une dizaine de salariés chaque année, avec des stagiaires qui rejoignent l'équipe d'ailleurs actuellement. On est en pleine période où on accueille des stagiaires qui viennent nous aider à compléter l'équipe. C'est deux, trois stagiaires chaque année. Et surtout, depuis quelques années, et ça c'est une vraie richesse, une force pour notre association, c'est l'accueil de services civiques qui s'engage vraiment dans des missions d'intérêt général au travers de cet engagement volontaire de service civique. Ça, c'est une vraie dynamisation pour la LPO, de jeunes qui ont vraiment envie de travailler, de s'engager, de contribuer par cet engagement volontaire à contribuer à la protection de la nature en Drôme.
D'accord. Ça, c'est un peu une nouveauté, le service civique dont vous bénéficiez. Il n'y avait pas vraiment d'alternative avant.
Non, clairement pas. Il y a toujours eu cette force bénévole, on va dire. Et puis on sait que dans nos réseaux, on a toujours eu des postes qui sont nés d'aides diverses et variées sur des emplois. Mais ceci étant dit, l'engagement de service civique depuis 2014, notre premier service civique est arrivé en 2014 à l'LPO Drôme. C'est une vraie nouveauté. Et surtout, il y a un vrai dynamisme et il y a vraiment beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui essaient de participer à tout ça. On aimerait en accueillir beaucoup plus. Malheureusement, c'est compliqué. Mais quand on lance une offre de mission et qu'on voit toutes ces personnes qui répondent et tous ces jeunes qui répondent et quand on perçoit finalement cette volonté de participer à la protection de la nature, même on peut dire cet amour de la nature qui transparaît dans ces candidatures, c'est vrai que ça nous encourage et ça laisse croire encore que ben, y a beaucoup beaucoup de jeunes et encore toute une génération qui arrive qui sera sensible et sensibilisée notamment par des actions comme celles que mène notre association.
D'ailleurs aussi, il y a plus de secteurs professionnels dans la nature par rapport à avant. au niveau préservation, mission de veille, etc.
Oui, alors c'est vrai que il y a des évolutions, on va dire réglementaires depuis une vingtaine d'années, mais beaucoup plus depuis 5 à 10 ans, qui ont fait que la protection de la nature s'est professionnalisée aussi bien au sein de nos associations que on va dire dans tout l'environnement du monde de l'aménagement et notamment au travers des bureaux d'études environnement qui sont créés pour justement réaliser les études d'impact, assurer les veilles et oui, il y a de l'emploi qui a été créé et aujourd'hui c'est aussi un argument qu'on doit faire valoir, je pense. Une association comme la nôtre, c'est aujourd'hui, comme je le disais, 10 personnes employées. C'est pas anodin c'est aussi de l'activité que la LPO crée parfois elle-même. C'est vraiment pas négligeable et c'est vrai que nos associations ont changé. On n'est plus les associations qui ont été créées. La LPO Drôme, c'est à peu près 40 ans d'histoire derrière associative. C'est vrai que la professionnalisation de nos associations a fait que leurs actions se sont étoffées et puis qu'il y a des nouvelles problématiques à nous-mêmes que nous devons gérer, de relations entre un monde salarié professionnel et un monde bénévole. Mais on est vraiment au sein de la protection de la nature quand même dans un monde où tout s'entrecroise et il y a vraiment toujours beaucoup de convivialité. Et dans nos missions à nous tous, salariés, on va dire qu'il y a une telle passion qui est mise dans le travail que c'est vrai que, on va dire, le lien avec les bénévoles, le lien avec l'engagement dans son travail, la conscience professionnelle, pourquoi on s'engage dans un travail, et cette conscience, elle est très très forte, quoi.
Puis également une reconnaissance, on pourrait dire, du public et au-delà même, voire comme par exemple Vinci qui a fait appel à vos services pour justement réorganiser quelques bas-côtés d'autoroute. C'est aussi une certaine reconnaissance.
Oui, je pense que dans les on va dire dans les réseaux professionnels, dans le monde justement de l'environnement, de la protection de la nature, l'ALPO est connu et reconnu. Il y a une aura, quoi. Il y a une vraie aura nationale. Et finalement, le réseau par cette aura, les retombées sont locales. Et c'est vrai que bon, même ce qui a été construit en Drôme avant même le passage à la LPO, c'est beaucoup de rigueur professionnelle, c'est beaucoup de vraiment dire un socle de connaissances naturalistes qui est très très important et qui est unique et qui nous permet vraiment d'être connus et reconnus professionnellement. Après, ce dont on a plus besoin aujourd'hui, je crois, c'est la connaissance et la reconnaissance par le grand public qui là est, on va dire, un peu plus ténu. C'est vrai que quand on fait des sondages au niveau national dans la rue sur les grandes associations de protection de la nature, les gens ont tendance à bien plus se connaître Greenpeace que la LPO. Voilà. Donc on a besoin aussi de cette reconnaissance du grand public, de l'adhésion du grand public à nos actions, qui peut-être un beau jour doit se retrouver dans nos adhérents. C'est vrai que 478 adhérents dans un département qui compte à peu près 480 000 personnes, on pourrait espérer bien mieux. C'est très 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 modeste finalement quand on remet tout ça à l'échelle d'un département. Donc c'est vrai que on va dire que oui, professionnellement parlant, nos preuves ne sont plus à faire. Par contre, auprès du grand public, on a beaucoup de choses à faire encore. Et même auprès, on va dire, du monde des entreprises, où aujourd'hui, on a besoin aussi d'aller vers le monde de l'entreprise, d'engager le monde de l'entreprise en tant qu'acteur de la société au travers de mécénats divers et variés. Ben ça, aujourd'hui, c'est vraiment un domaine sur lequel on a besoin de progresser et qui est un domaine crucial aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit que voilà, une association comme la nôtre, pour fonctionner avec une petite équipe de salariés telle que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que on a besoin de ressources et on a besoin aussi, au-delà des ressources, d'avoir l'adhésion aussi du monde de l'entreprise et des collectivités à notre projet.
Ce fil va tout doucement s'étoffer puisqu'en fait vous avez de plus en plus une connaissance fine du territoire, hein, pas seulement de la faune, mais c'est tout un ensemble qui fait que maintenant vous avez vraiment une valeur ajoutée. Hein, vous
Oui,
pouvez dire ça.
moi je suis très très optimiste. Ça fait pas très longtemps que je suis à la LPO Drôme, ça fait 4 ans maintenant, mais je vois les choses évoluer. Je pense qu'on est de plus en plus présent dans les réseaux, de plus en plus connus. Et en côtoyant le monde de l'entreprise, personnellement, je côtoie de plus en plus d'entrepreneurs qui souhaiteraient s'engager, sont curieux de voir ce qu'ils peuvent faire pour la biodiversité. Je parle vraiment au-delà de l'environnement, puisque beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui intègrent déjà les préoccupations environnementales dans leur travail. Il y a même des obligations légales quand on parle de gestion des déchets, de questions énergétiques. Mais la nature, la biodiversité, l'impact des entreprises sur la biodiversité, au-delà de l'impact qu'elles peuvent avoir, comment elles peuvent engager leurs salariés, comment elles-mêmes peuvent contribuer, on va dire, au pot commun de la protection de la nature. Là-dessus, il y a une curiosité qui semble naître. Et au-delà de cette curiosité, des gens, des entrepreneurs, des patrons qui ont envie de passer au concret. Et voilà, on a des choses comme le programme Refuge LPO Entreprise, qui sont des choses clés en main qu'on peut proposer aux entreprises, qui peuvent faire des petites différences localement, entraîner des initiatives des volontés, des bonnes volontés. Et c'est pour ça vraiment qu'on a besoin de se faire connaître et auprès de tout le réseau, aussi des entreprises drômoises et des collectivités, du grand public. C'est beaucoup une question de réseau, tout ça. Voilà.
Merci beaucoup, Olivier Chartrandon.
Merci.
C'était Vivien Chartandreau, directeur de la LPO Drôme. Suite de cette série découverte de la LPO, Ligue de protection des oiseaux, avec son antenne départementale de la Drôme. Julie Coutou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission, on peut dire, c'est votre l'intitulé de votre poste.
Chargée d'études.
Chargée d'études, exactement, au sein de l'LPO. Oui. Et vous, donc, votre secteur, c'est, on pourrait dire, dans un grand principe, une mission de veille, et puis aussi de pédagogie, dans un certain sens.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est d'améliorer et de promouvoir la prise en compte de la biodiversité dans n'importe quel projet, que ce soit auprès de différents publics, en fait. On peut s'impliquer aussi bien avec une collectivité, par exemple dans le cadre d'un PLU, que d'une entreprise pour son implantation, avec par exemple améliorer la biodiversité sur son terrain ou encore dans une zone industrielle.
D'accord. Votre spectre d'intervention est assez large parce qu'on parle d'industriel, mais ça peut être aussi l'agriculture.
Oui, tout à fait. Et en fait, la LPO s'engage notamment sur la plateforme TAB. Donc la plateforme TAB, c'est technique alternative et biologique. Donc en fait, la LPO s'investit depuis 5 ans sur ce site, qui est un site expérimental d'une vingtaine d'hectares, qui se situe à Étoile-sur-Rhône, en fait. Et le but, c'est de développer une agriculture biologique et aussi à faible intrant pour favoriser une biodiversité dans ces espaces agricoles. Donc le but, en fait, ça va être vraiment de tester des méthodes et des techniques pour enrayer, en fait, la perte de la biodiversité dans ces milieux. Donc il y a déjà plusieurs actions qui ont été menées, comme la plantation de haies. Il me semble qu'il y a déjà plus de 600 mètres de linéaires de haies qui ont été plantés. Donc c'est des champêtres diversifiés. Il y a une mare aussi qui a été créée, des bandes enherbées pour favoriser les papillons, des nichoirs qui ont été posés. Donc voilà, il y a toutes sortes d'aménagements qui ont été mis en place sur cette plateforme TAB avec l'aide de LPO. Et afin, en fait, d'évaluer l'efficacité des différentes mesures qu'on a mises en place, eh ben, on a besoin d'indicateurs biologiques. Donc ça peut être les oiseaux, mais aussi bien les papillons. Et donc nous, on fait une étude sur les papillons de jour.
D'accord. C'est un petit peu le révélateur de la situation.
Oui, voilà. En fait, les papillons de jour, c'est des bons indicateurs parce qu'ils répondent rapidement, en fait, aux modifications du milieu, donc une modification de gestion. Et en plus, c'est un groupe qui est aussi bien connu, donc ça en fait un excellent indicateur pour mesurer la pertinence des gestions mises en place.
D'accord.
Donc, on commence à avoir des résultats sur cette étude qui a été commencée donc en 2011. Cette étude, elle est faite à partir de transectes. Donc, les transectes, en fait, c'est des parcours qu'on va parcourir à chaque fois qu'on passe sur le site, qui ont été répartis dans différents milieux. Et en fait, on s'est rendu compte depuis le 2011 que le nombre d'espèces et le nombre d'individus au site papillon avait fortement augmenté. Donc, on est passé de 16 espèces en 2011 à 24 en 2014. Donc, en fait, cette augmentation, elle est causée grâce à la diversification des habitats qui a été notamment induite par la plantation des haies, la mise en place de bandes enherbées.
Alors comment ça se passe quand vous arrivez sur des sites comme ça qui ont besoin d'une certaine peut-être reconfiguration? Vous posez un cahier des charges, vous faites des études
Voilà, c'est ça. Donc là, c'est un travail qui est fait en étroite collaboration avec la plateforme TAP, qui, eux, testent différentes techniques, donc différentes méthodes d'agriculture, donc l'agriculture biologique, alternative. Et donc, nous, on voit comment on peut essayer d'améliorer la biodiversité dans ces parcelles, en fait. Et donc, c'est vraiment un travail fait en collaboration. Et on amène notre expertise et puis nos études. Au final, ça va être de mettre en avant des méthodes qui sont efficaces, donc des chiffres, et qu'on puisse mettre en avant ces méthodes et faire en sorte qu'elles soient transposées à plus large échelle, en fait.
D'accord, ok. Et donc ça nécessite aussi donc un certain encadrement. Quand vous avez un lieu, après vous devez aussi définir avec différents collègues, ça doit allier plusieurs compétences dans le monde de l'environnement quand vous mm-hmm. travaillez sur des sites. Vous pouvez être accompagné aussi selon les configurations des lieux.
On peut intervenir en équipe en tant que LPO pour avoir vraiment un panel large, mais aussi avec parfois d'autres structures pour, par exemple, la gestion des espaces ou ce genre de choses.
C'est un petit peu aussi l'interface des insectes auprès de la LPO, enfin pour dire ça de manière assez générique, c'est un petit peu ça ?
Oui, c'est ça. Ouais.
Vous êtes à même d'intervenir sur différents secteurs, même mm-hmm. pour différentes choses, pas spécialement liées à des projets professionnels, ou vous pouvez avoir d'autres actions, missions pédagogiques ou...
Oui, bien sûr, la sensibilisation du public, notamment aux insectes, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. C'est un groupe qui est souvent... Enfin, c'est des groupes qui sont souvent méconnus. Bon, après, ça va, les papillons, ils ont ça pour eux, c'est que ce sont quand même des belles bêtes. Et généralement, les gens n'ont pas trop peur, comme par exemple, ça pourrait être le cas pour les reptiles, qui est un sujet aussi de sensibilisation important. C'est vraiment d'améliorer cette prise en compte des insectes, qui est au final assez nouvelle, en fait, dans le monde de l'environnement. Parce que maintenant, il y a aussi des espèces protégées, comme par exemple l'azuré du serpolet, qui est un petit papillon bleu qui est protégé nationalement. Donc en fait, on essaie de faire en sorte que les insectes soient beaucoup mieux pris en compte dans les projets d'aménagement, mais aussi que les gens soient plus sensibilisés à ces groupes-là.
Ouais, là, ça commence à faire son chemin, vous pensez? Le fait que les insectes soient plus pris en compte aussi?
Oui, non, moi, un petit peu. Ça commence. On est en bonne voie, du moins.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, il n'y a pas de législation par rapport à ça au niveau environnement quand il y a une construction?
Ah, si. 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 Ça dépend, en fait, de la structure qui va être implantée. Mais par exemple, comme les sites industriels, on travaille notamment sur un site industriel dans le sud de la Drôme, où en fait, quand un site va s'implanter, un projet d'aménagement va s'implanter, il y a au préalablement une étude d'impact. Donc en fait, c'est une étude qui va évaluer l'impact du projet sur l'environnement. Et selon les espèces présentes, il peut y avoir différents dossiers qui vont impliquer une prise en compte de l'environnement, en fait, du projet. Donc, là, par exemple, il y a un papillon protégé qui a été constaté sur le secteur. Donc, du coup, l'entreprise doit mettre en place différentes mesures pour prendre en compte ce papillon dans ses aménagements.
D'accord. Qu'est-ce qui fait appel à vous dans ces cas-là quand il y a une mission de ce type ? C'est l'entreprise qui construit, ça peut être l'État ou
c'est une... Généralement, c'est l'entreprise, oui, qui va demander en fait un accompagnement de la part de la LPO.
D'accord. Et après, vous leur préconisez des choses, vous pouvez imposer aussi des choses ?
Ça dépend de notre relation avec eux, si on est là en tant que conseil ou si on est vraiment là en tant que partenaire. Mais bon, généralement, on ne leur impose pas, on leur amène. Mais généralement, ils prennent vraiment en compte nos propositions d'aménagement. Et puis, donc oui, en fait, on va leur proposer des gestions différenciées, la mise en place, par exemple, de gîtes à insectes, de secteurs de refuges. En fait, on peut leur proposer tout un panel d'actions pour favoriser les insectes sur leur parcelle.
Et là, puisqu'on est dans le domaine de l'industrie, les industriels sont assez sensibles à ce type d'action, enfin, en tout cas, de préservation de l'environnement ?
De plus en plus. En tout cas... L'industriel avec lequel on travaille, au début, c'était une contrainte pour lui, donc parce que c'est une contrainte légale. Mais au final, on peut dire qu'il s'est pas pris d'amour, mais il s'est pris de passion pour ce papillon-là, et maintenant il est vraiment intéressé par cette espèce et par les différentes actions qu'on peut faire pour la favoriser. Donc c'est vraiment un échange, et aujourd'hui, voilà, il y a une sensibilisation à faire dans ce milieu-là, mais les gens ne sont pas fermés.
À l'image des chauves-souris, l'état des populations dans la Drôme, au niveau insectes, c'est un territoire qui est quand même favorable aux papillons en termes de biodiversité.
Ben en fait, la Drôme, on se trouve vraiment à une confluence d'influences géographiques, donc avec les secteurs plutôt méditerranéens, d'autres qui sont plus continentaux. Donc du coup, on a vraiment une diversité de milieux qui fait qu'on retrouve une grosse diversité de papillons, en fait, qui est vraiment très intéressante. Donc, en fait, on a un beau département pour découvrir les papillons.
Et le fait de dire que maintenant, il n'y a plus de papillons par rapport à avant, avant, il y en avait beaucoup, même il y a des...
C'est les modifications de nos habitats, en fait. Donc, par exemple, avant, tous les champs avaient leurs haies, donc on voyait énormément de papillons. Mais c'est difficile, en fait, de dire qu'il y a moins de papillons qu'avant. On ne voit plus les mêmes. Puis peut-être qu'on fait moins attention aussi. Enfin, maintenant, on essaie de faire plus attention avec les études, mais là, il y a des études notamment qui ont été mises en place à l'échelle nationale pour évaluer les populations de papillons.
D'accord. C'est les haies qui favorisent essentiellement, on peut dire, la pérennité des papillons.
Enfin... Non, ça va être les haies, mais ça peut être aussi les milieux ouverts. En fait, ça dépend de chaque papillon a son habitat préférentiel. Donc, il y a les papillons de milieu ouvert, il y en a même en milieu boisé, ça existe. Mais en fait, c'est la diversité des milieux qui fait qu'on favorise les papillons. Et puis aujourd'hui, malheureusement, avec les monocultures, les grands espaces, on ne favorise pas du tout cette biodiversité. Et ça s'applique aux papillons, mais aussi à toutes les espèces.
Vous avez d'autres missions, Julie, au sein de la LPO. Alors, on évoquait un petit peu une mission de pédagogique de veille, entre guillemets, par rapport à des projets industriels, mais il y a aussi d'autres projets que vous menez conjointement.
Oui, notamment les refuges LPO, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de promouvoir. En fait, un refuge LPO, ça peut être mis en place par n'importe quelle structure et même par n'importe qui, hein. Ça peut être vous, moi, c'est un particulier, une mairie, une école, une entreprise qui a envie en fait de placer ces espaces verts en refuge, donc de mettre en place une gestion adaptée, de mettre même en place des nichoirs, des gîtes, pourquoi pas des spirales végétales, pour favoriser en fait la biodiversité dans son jardin. Donc le but du programme Refuge LPO, en fait, c'est vraiment de faire en sorte que chacun, à son échelle, puisse agir pour la biodiversité.
D'accord. Alors comment ça se passe dans ces cas-là? Les gens prennent contact avec vous pour tout ce qui concerne un peu la logistique, le côté matériel?
Oui, c'est ça en fait. C'est une sorte d'agrément en fait. Donc quand vous vous inscrivez en tant que refuge, il y a une charte à respecter. Donc par exemple, ne plus utiliser de pesticides, mettre en place quelques nichoirs dans son jardin, enfin dans son espace. Il y a toute une petite charte qui est quand même assez légère et à respecter. Et après, donc nous, on va vous accompagner dans la mise en place de ces différentes mesures. Donc pour ça, vous pouvez nous appeler. Donc je peux peut-être appeler le numéro. Donc vous pouvez nous appeler au 04 75 57 32 39. Où vous avez aussi tout un tas d'informations sur les refuges LPO sur notre site internet lpo-drome.fr.
Alors, et on rappelle que ça s'adresse... À tout le monde,
voilà. Tout le monde peut agir.
Entreprise, particulier, oui. Même les écoles.
Oui, bien sûr. On a des refuges. On a pas mal de refuges dans les écoles. Donc on met en place des nichoirs. On fait une sensibilisation des enfants en même temps à au final cette biodiversité qu'on va dire commune de proximité, hein, mais qui est tout aussi importante et tout aussi en danger.
Fin de ce deuxième épisode pour une série découverte en 5 volets de la LPO, Ligue de protection des oiseaux et de la biodiversité de la Drôme. Nous étions en compagnie de Vivien Chartandreau, directeur de la LPO Drôme, et Julie Coutou, chargée d'études autour de la biodiversité.